des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Les effronter.
Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
Les effronter.
J'ai écouté un reportage sur le site web de Tabloïd à propos de la pandémie et de l'itinérance à Montréal, notamment. Ils suivaient un travailleur de rue qui nous expliquait à quel point la pandémie avait changé et leur travail à eux, mais aussi la situation des itinérants. Et ça nous a donné l'idée d'en discuter de cette pandémie qui change la réalité des itinérants, des intervenants qui interagissent avec eux jour après jour. Et on discute avec le PDG de la mission Oldbury, Matthew Pierce. Bonjour, Monsieur Pierce.
Bonjour.
Écoutez, vraiment très, très simplement, comment, parce qu'on le sait là, que la réalité de la pandémie a influencé, a affecté la réalité des gens qui vivent dans la rue, mais concrètement, comment ça se manifeste?
Bon, alors, c'était, même bien avant COVID, c'était très difficile la vie à la rue, on s'entend. Donc, c'était un effet qui a aggravé la situation, je dirais. C'était déjà très difficile pour quelqu'un de survivre à la rue. C'est devenu davantage le cas. Et entre autres, c'est parce que les services à cette population, les organismes qui desservent cette population ont dû radicalement changer la nature et l'étendue de leurs services, qui faisaient en sorte que les services habituels n'étaient parfois plus disponible à cette population. Donc, ils se voyaient dans une sorte de vide pendant une période de temps, le temps que ça nous a pris pour mettre sur pied les nouveaux projets, les nouveaux activités pour venir en aide à la personne.
Mais, M. Pierce, je me posais la question à savoir, est-ce que les gens en situation d'itinérance, parce qu'on les voit au centre-ville de Montréal, souvent, ils ne portent pas de masque, ils n'ont pas de gants, est-ce qu'ils sont affectés par la COVID-19? Est-ce que vous avez beaucoup de cas? Ça vous fait rire, ma question?
La question, s'ils sont affectés, oui, ils sont affectés comme toute autre personne. Ils ont le potentiel d'être affectés. Ils sont vulnérables à l'infection, laisse-moi dire. Encore plus parce que souvent, leur santé est fragile et ils vivent une précarité et les maladies chroniques, etc. Souvent, ce sont les raisons pour lesquelles ces gens se trouvent à la rue dans un premier instant. Donc oui, ils sont très vulnérables et ils sont exposés parce qu'ils peuvent pas facilement se distancier dans un contexte de refuge où ça, au moins, au début de la crise, c'était le cas.
Et se laver les mains tout le temps et tout.
Tout ça. Pour avoir de l'eau potable, ça a été pour une période de temps très difficile pour ces personnes-là. Donc, et accès à l'équipement de protection, c'était le cas s'ils étaient à l'intérieur des murs de nos refuges, par exemple. Mais sinon, ils ont été carrément à leur propre compte et très exposés. Je peux vous dire que malgré tout cela, heureusement, on n'a pas eu une éclosion très dramatique à ce stade-ci chez la population. Il y a un lieu de quarantaine situé à l'ancien hôpital Royal Vic et on compte que 20 personnes en situation d'itinérance qui sont là actuellement. Donc, ce n'est pas une éclosion dramatique, mais rendu à la seconde vague, qui sait? Parce que la vulnérabilité est là. Nous avions mis en place les protocoles de sécurité et de santé. Espérons que ça va minimiser toute éclosion potentielle.
Ben oui, puis là, il y a plein d'affaires là-dedans. Là, notamment, il fait chaud en ce moment. Et cet hiver, on aura de la neige et tout ça. Là, ça devient plus compliqué pour l'hébergement. Vous pourrez inévitablement pas remplir tous vos lits à cause de la distanciation qui est exigée. Comment vous allez vous organiser? Est-ce que vous avez commencé à y penser?
Déjà, nous avons ouvert avec la ville, nos partenaires communautaires, le CIUS Centre-Sud, ministère de Santé, on a ouvert des endroits temporaires, par exemple, au marché Bon Secours, à l'aréna Maurice Richard, l'aréna Camillien Wood. Ce sont les endroits temporaires qui viennent en aide à ces personnes exactement à cause du fait qu'ils peuvent pas entrer dans les refuges parce que les refuges traditionnels ont dû diminuer le nombre de personnes pour favoriser la distanciation. Alors, en ce moment, avec les services temporaires, je crois que ça fonctionne assez bien, et je dirais même que c'est un très beau partenariat avec la ville, la province et la communautaire.
Donc, il n'y a personne qui est obligé de dormir dehors pour le moment, parce qu'il n'y a pas de place.
Non. Même maintenant, après l'arrivée de COVID, il y a plus de lits disponibles, pas moins de lits.
OK. Il y a la fameuse question de l'argent liquide aussi, parce que vous l'avez dit, oui. La pandémie creuse encore plus la détresse, les inégalités. Là, ce qu'on peut constater, si on se promène un peu au centre-ville, c'est que les gens sont plus hésitants à donner de l'argent aux personnes sans-abri. On les voit aussi moins en demander. Et quand ils en obtiennent, ben force est d'admettre que dans plusieurs commerces, l'argent liquide n'est tout simplement plus accepté. Donc, ça doit les mettre dans une situation encore plus précaire, ça.
Oui, en effet, vous l'avez très bien décrit, le phénomène, c'est un cercle vicieux dans le sens que c'est plus difficile d'avoir de l'argent, de quêter de l'argent, et quand on réussit de l'avoir, on peut pas facilement l'utiliser. Heureusement, les services à la population offrent des repas, offrent des douches, offrent de l'eau et offrent bien évidemment un lit. Donc, les besoins de base sont déjà couverts. On n'a pas quelqu'un qui doit crever de faim à Montréal à cause qu'il n'a pas d'argent dans sa poche parce que les ressources offrent suffisamment d'options de repas. Et mais toute personne a besoin de d'autres choses qui sont pas fournies par les ressources traditionnelles. C'est difficilement atteignable dans les circonstances actuelles.
Monsieur Pierce, vous émettiez un communiqué ce matin à propos du financement à Montréal qui serait sous-financé pour ce qui a trait à l'itinérance alors que les besoins augmentent, et vous posez la question pourquoi on n'est pas financé ou sous-financé alors que quand même, on va pas se le cacher, le Montréal est tout de même l'épicentre de l'itinérance au Québec?
Oui, j'arrive pas à comprendre. Il y avait l'annonce en mois de mars du premier ministre du Canada d'un fonds de 157 millions de dollars pour les services de première ligne en itinérance au travers le pays, et dont 21 millions de ce montant-là a été octroyé au Québec. Et pour une raison ou d'une autre, uniquement 33% de ce montant-là a été alloué à Montréal par le gouvernement de Québec. Alors, j'arrive pas à comprendre leur raisonnement, le rationnel de la distribution, puisque on reçoit 33% de financement, mais on compte 70% de la population itinérante au Québec.
Et qu'est-ce qu'ils vous répondent?
On n'a pas de réponse encore. J'aimerais comprendre parce que j'arrive pas à comprendre. Ça fait pas de sens. Comme vous dites très bien, Montréal, c'est l'épicentre de l'itinérance au Québec, mais il est aussi l'épicentre de COVID au Canada.
Donc, puis en plus, on accueille des itinérants souvent des autres provinces dans la saison estivale.
Souvent, peut-être moins cette fois-ci à cause de difficultés de transport, etc. Mais oui, c'est le cas. Mais tout de même, la population, le nombre de personnes à Montréal en situation d'itinérance ne se compare pas avec le financement qui a été octroyé.
Très bien, Matthew Pierce, président, directeur général de la mission Oldbury. La pandémie qui change bien évidemment la réalité des itinérants. On en parle souvent dans les différents points de presse et les inégalités se creusent. Merci beaucoup de nous avoir parlé. De notre côté, c'est tout. On se retrouve demain mardi. Je vous laisse avec Mario Dumont. Merci d'avoir écouté Les Effrontés.